de Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, chers auditeurs, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, Mon Indonésie, le magazine culturel, Apprendre l'Indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous. Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et de 47,50 kHz et sur le site web www.voice.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir à tous, vous écoutez maintenant la voix de l'Indonésie avec le journal. Vous êtes avec moi Audrey, je vais vous présenter quelques événements importants en Indonésie et au monde, entre autres. Le Worldwide Fund, les marchés asiatiques sont à la traîne pour l'huile de palme durable. L'Indonésie promeut 5 destinations super prioritaires en Espagne. L'Indonésie est prête à ajouter des exportations de médicaments vétérinaires vers l'Éthiopie. L'Allemagne soutient le développement d'une identité asiane. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, tient une réunion d'urgence pour discuter du virus corona en Chine. Bangka Belitung organisera un événement touristique international et éradiquer la radicalisation. Le siège de la police française Matignon renforce la sécurité des services de renseignement. Chers auditeurs, voici les nouvelles en complet. Le World Wide Fund, les marchés asiatiques sont à la traîne pour l'huile de palme durable. La cinquième édition du WWF Palm Oil Buyer Scorecard vient d'être publiée. Le WWF estime que le marché asiatique est toujours à la traîne pour le commerce de l'huile de palme durable, car il y a encore de grandes entreprises qui n'ont pas montré leur engagement. Il y a un quart des entreprises qui sont évaluées par un tableau de bord. Elles n'ont pas du tout démontré leur engagement à utiliser l'huile de palme durable, y compris les grandes entreprises asiatiques, de sorte qu'il semble que le marché asiatique est toujours à la traîne dans l'achat et le commerce d'huile de palme durable. Aditya Bayunanda, le directeur des politiques et du plaidoyer du WWF Indonésie, a déclaré mardi dans un communiqué écrit à Jakarta que le soutien des détaillants et des producteurs à l'approvisionnement durable en huile de palme doit être accru en Indonésie. La participation active des acteurs du commerce de détail aura un impact positif sur la réalisation des droits des consommateurs à avoir la possibilité d'acheter des produits respectueux de l'environnement et durables. L'Indonésie promeut sa destination super prioritaire en Espagne. L'Indonésie participe au 40e anniversaire de l'exposition touristique célèbre dans le monde entier, la Feria Internacional de Turismo, qui a lieu à IFEMA. Feria de Madrid pendant 5 jours du 22 au 26 janvier. La participation indonésienne vise à attirer les touristes espagnols. Agustin Rahayu, le haut fonctionnaire du ministère du Tourisme et de l'économie créative, a expliqué mardi à Antara, Londres, que l'Indonésie promouvait 5 destinations prioritaires, à savoir le lac Toba au nord de Sumatra, Borobudur au centre de Java, Mandalika au Ntb, Labuan Bajo dans Ntt et Likupang dans le nord de Sulawesi. Lors de l'exposition, le ministère du Tourisme et de l'Économie créative a facilité les réunions d'affaires avec l'industrie du tourisme. Il espère qu'il y aura l'augmentation de 10% des transactions à 237 milliards roupias par rapport à l'année dernière. L'Indonésie est prête à ajouter des exportations de médicaments vétérinaires vers l'Éthiopie. L'équipe éthiopienne d'inspection alimentaire et vétérinaire a effectué un audit dans l'une des sociétés indonésiennes de médecine animale, PT Medion Pharma Jaya. Cet audit a été réalisé pendant une semaine à partir du 13 janvier 2020. Il s'agit de donner suite à la directive du ministre de l'Agriculture, Sahrul Yassin Limpo, de tripler les exportations de produits agricoles, y compris les médicaments vétérinaires. Cela a été dit par le directeur général de l'élevage et de la santé animale, Iketut Diarmita, à Jakarta, mardi 21 janvier. Selon lui, cette activité est une étape pour augmenter les exportations des médicaments vétérinaires vers l'Éthiopie. Que tout est optimiste que l'Indonésie peut augmenter le volume et la valeur des exportations pour le marché éthiopien compte tenu la qualité de la médecine animale indonésienne est très bonne. L'Allemagne soutient le développement d'une identité asiane. L'Allemagne soutient le développement d'une identité asiane. L'Allemagne est très fière de faire partie de l'année asiane 2020 de l'identité de l'ASEAN. Cela a été communiqué par l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne pour l'Indonésie, le Timor-Leste et l'ASEAN, Peter Schoof, représentant le GIZ, une organisation allemande qui soutient le concours du logo ASEAN. Lors du lancement du logo ASEAN Identity 2020 au bâtiment du secrétariat de l'ASEAN Jakarta mardi 21 janvier, il a ajouté que l'ASEAN essayait de trouver un moyen de son identité et devait faire face à de nombreux défis pour la surmonter. L'ASEAN, comme l'Union européenne, essaie de trouver un endroit et un moyen de surmonter ce problème d'identité avec de nombreux défis. Et bien sûr, cette situation est très bonne car elle tend généralement à unir les gens. Mais ce qui est également important, c'est que tous les feront ensemble sur la base de valeurs communes et d'une vision partagée. L'ambassadeur Peter Schoof a ajouté que l'Allemagne était déterminée à aider l'ASEAN dans divers domaines importants pour l'ASEAN et ses habitants et il espérait vraiment une relation très bonne et amicale dans les années à venir. Le concours a été lancé en septembre 2019 par le secrétariat de l'ASEAN avec le soutien de l'Agence allemande pour la coopération internationale GIZ, participé par 1378 jeunes participants dans tous les pays membres de l'ASEAN. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, tient une réunion d'urgence pour discuter du virus corona en Chine. Une mystérieuse pneumonie due à une nouvelle variante du virus corona se propage en Chine. Le quatrième décès a été signalé à la suite d'un virus associé au syndrome respiratoire aigu, SRAS. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a annoncé qu'elle tiendrait une réunion d'urgence mercredi 22 janvier pour discuter de la propagation du virus. Un panel de l'OMS se tiendra à Genève pour déterminer si le virus est déclaré épidémie et urgence sanitaire internationale ou pas. Cette disposition est une désignation rare qui n'est utilisée que pour les épidémies les plus graves. L'OMS a précédemment déclaré que les sources animales étaient le déclencheur le plus probable de la transmission du virus corona. L'OMS affirme que les nouveaux cas en Chine sont le résultat d'une augmentation des recherches et des tests virus chez les personnes souffrant des maladies respiratoires. Ce virus a commencé à être détecté dans la ville de Wuhan, en Chine, qui compte 11 millions d'habitants. Bangka Belitung organisera un événement touristique international. Le gouvernement provincial des îles Bangka Belitung organisera un certain nombre d'événements pour augmenter les visites des touristes afin de soutenir la croissance économique et le bien-être public. C'est ce qu'a déclaré mardi l'assistant chargé de l'économie et du développement du gouvernement provincial des îles Bangka Belitung, Yanuar à Pangkal Pinang. Il a déclaré que les événements nationaux et internationaux qui se tiendraient, entre autres, le Festival de la Lune des îles de Bangka Belitung et le plus grand marché nocturne de Bangka Belitung avec des performances spéciales, des jeux de plage, la tour de Karimata et la réunion de coordination nationale sur l'éducation au bien-être familial PKK. Le chef de l'Office du tourisme de la province des îles Bangka Belitung, Rivai, a déclaré que pour optimiser la préparation des activités touristiques, il y a deux aspects qui devaient être pris en compte, à savoir la qualité de l'événement et les médias de promotion. Éradiquer la radicalisation. Le siège de la police française, Matignon, renforce la sécurité des services de renseignement. Actuellement, le siège de la police de Paris à Matignon renforce les services de renseignement. Cela a été fait après que le département du renseignement au siège de la police a été attaqué par un informaticien. De cet incident, la police française a indiqué qu'il y avait des intrus dans la police interne. C'est ce qu'a rapporté RFI.fr dans son site internet mercredi, le 22 janvier 2020. Selon RFI.fr, depuis 2014, date d'entrée en fonction de l'inspection, 16 personnes ont été écartées des services de renseignement. Aucune depuis l'attentat du 3 octobre dernier à la préfecture de la police de Paris. La formation des personnels sur ce que l'on appelle les signaux faibles de radicalisation sont obligatoires, surtout en matière de recrutement. Matignon souligne l'instauration du participe d'habilitation préalable au secret défense à tout prix de fonction au sein d'un service de renseignement. Une habilitation obtenue après une enquête minutieuse. Chers auditeurs, c'est tout le journal.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « Le virus corona dérange le monde ». Une mystérieuse épidémie de virus a soudainement secoué le monde. Le virus corona, comme on l'appelait, a obligé l'Organisation mondiale de la santé à tenir une session d'urgence pour discuter du cas. De la Chine a signalé 17 nouveaux cas. Les autorités chinoises affirment que le virus corona a provoqué des symptômes semblables à ceux de SARS et a mis la victime dans un état critique. L'anxiété survient en raison de sa relation avec le syndrome respiratoire aigu sévère qui a tué près de 650 personnes en Chine continentale et à Hong Kong en 2002 jusqu'à 2003. En Chine, corona attaque des personnes âgées de 30 jusqu'à 79 ans et aurait infecté 62 personnes, dont 8 dans un état critique. L'agence de presse française AFP a même rapporté que le virus avait infecté au moins 218 personnes. Selon un responsable chinois, le virus pourrait se propager rapidement dans trois pays voisins de la Chine. Le développement de ce mystérieux virus corona a fait l'OMS tenir une réunion d'urgence le mercredi 22 janvier 2020. Il est probable que l'OMS déterminera si le virus corona est un virus qui peut provoquer une crise et mettre en danger la communauté. Il doit donc devenir une préoccupation nationale et internationale. Le virus nommé techniquement 2019 nouvel coronavirus a été confirmé par le gouvernement chinois en déclarant que le premier cas a été trouvé le 20 janvier 2020 dans la province du sud de Guangdong. Si l'OMS, lors de sa réunion à son siège à Genève, a déclaré que le virus corona provoquait une situation d'urgence sanitaire mondiale, on pouvait alors s'assurer que le virus corona était à l'origine d'une pandémie très dangereuse. Comme pour le virus Ebola, qui autrefois inquiétait le monde, il doit y avoir un effort très sérieux pour faire face à corona. Chers amis, c'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du dimanche sanglant en Russie le 22 janvier 1905. Le dimanche rouge ou dimanche sanglant du 22 janvier 1905 à Saint-Pétersbourg, capitale de l'Empire russe, désigne la répression sanglante d'une manifestation populaire sur la place du Palais d'Hiver par l'armée impériale, qui tire sur la foule. Un dimanche sanglant a eu de graves conséquences pour le régime du Tsar et a entraîné la perte de soutien populaire au pays. L'événement qui s'est produit dimanche a été considéré comme l'un des événements importants qui ont finalement conduit à la révolution russe de 1917. L'autre information est sur la naissance de Rio Haryanto. Rio Haryanto est un premier Indonésien sur la planète F1 avec l'équipe de Manor Racing. Il est le premier coureur indonésien au niveau de GP2 série. Rio également était le premier coureur indonésien de l'histoire à essayer la Formule 1. Il est également considéré comme l'un des jeunes pilotes qui a le potentiel pour devenir le représentant de l'Asie en Formule 1 à l'avenir. En 2011, Rio a participé à l'épreuve de la série GP3 avec l'équipe Marussia Manor Racing et à la série Auto GP avec l'équipe de Riot Arno Motorsport aux Dames. Il est devenu champion national de karting dans la catégorie junior dès sa première année en course. Son talent a vite été aperçu par beaucoup de gens. Le 18 février 2016, Manor Racing, en tant qu'équipe de Formule 1, a officiellement annoncé que Rio Haryanto serait son pilote pour la saison 2016, accompagnant Pascal Wehrlein. Rio également était le premier coureur indonésien à prendre part à cet événement prestigieux. Nous finissons l'histoire aujourd'hui avec l'événement le 22 janvier 2006. Evo Morales a été nommé président de la Bolivie, devenant ainsi le premier président des Indiens autochtones. Juan Evo Morales Ayma est le président de la Bolivie jusqu'en 2019 et est devenu le premier autochtone à occuper le poste de chef de l'État depuis l'occupation espagnole il y a plus de 470 ans. Morales est socialiste et provient d'origine indienne ou Aymara et a été nommé président le 22 janvier 2006. Morales est le chef du parti politique du mouvement pour le socialisme impliqué dans la guerre du gaz avec de nombreux autres groupes qui sont généralement appelés mouvements sociaux. Lors de l'élection présidentielle de 2002, Morales est arrivé en deuxième position, une surprise décevante pour les partis boliviens traditionnels. Cela a immédiatement rendu le militant indigène célèbre sur tout le continent américain. Morales a finalement été élu président lors des élections de 2005, après plusieurs crises causées par des problèmes avec l'industrie du gaz. Serge Ritard, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir. Chers auditeurs, c'était la chanson intitulée Sura Cinta untuk Starla, chantée par Virgun. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia d'Indonésie pour le monde. Et voici donc mon Indonésie. Chers auditeurs, l'antenne pour la rubrique suivante, voici donc mon Indonésie. Et pour le titre, Labuan Bajo prépare pour le sommet du G20 et l'ASEAN. Le président Joko Widodo s'est rendu à Labuan Bajo dans la province de Nusa Tenggara Est, dimanche, jusqu'à mardi dernier. Le gouvernement a inclus Labuan Bajo comme l'une des 5 destinations super prioritaires. Le premier jour de sa visite de travail à Labuan Bajo, lundi, le président Joko Widodo a tenu une réunion restreinte du cabinet avec le ministre du Tourisme et de l'Économie Créative, en tant également le chef de l'Agence du Tourisme et de l'Économie Créative, Vishnu Tama, le ministre des Travaux Publics et du Logement Public, Basuki Hadi Mulyono, le ministre des Transports, Budi Karya Sumadi, la ministre de l'Environnement et des Forêts, Siti Nurbaya Bakar, le ministre des Entreprises d'État, Eric Thohir, le chef de l'Agence nationale de gestion des catastrophes, le général de corps d'armée, Denis Monardo, le chef de l'Agence nationale de la recherche et du sauvetage, le vice-amiral Bagus Puruhito, le gouverneur de Nusa Tenggara Est, Victor Laiskodat, le régent de Manggarai Occidental, Agustinus C.H. Dula. Après la réunion, le président Joko Widodo a exprimé son désir de préparer Labuan Bajo à devenir le lieu du sommet du G20 en 2023. Outre le sommet du G20, d'autres activités de classe mondiale qui se tiendront à Labuan Bajo et le sommet de l'ASEAN. Selon le président, les principaux obstacles à la préparation de Labuan Bajo en tant qu'événement international étaient les infrastructures, le paysage, les ordures et le manque de routes. Par conséquent, les préparatifs doivent donc commencer cette année. En ce qui concerne la disponibilité de l'obroute, le président Jokowi a demandé au ministre Basuki d'augmenter la capacité de l'obroute d'environ 100 ml par seconde. Concernant les déchets, il souhaite que le ministère des Travaux publics et du Logement public prépare une infrastructure de gestion intégrée des déchets, tant pour les déchets terrestres que marins. Pour les déchets terrestres, le président Joko Widodo a demandé au ministère des Travaux publics et des Logements publics de construire un incinérateur de déchets fonctionnant à l'aide d'une technologie de combustion à une certaine température afin que les déchets puissent brûler ou être appelés incinérateur. Ensuite, construisez une décharge définitive. En ce qui concerne les déchets marins, il veut des bateaux de nettoyage marin. L'activité devrait commencer en février 2020. Le président a souligné que la chose la plus importante est l'éducation du public sur la culture des déchets. Il espère qu'il n'y a pas de déchets à Labuan Bajo. D'autre part, le chef de l'État a également ordonné au ministre des Forêts et de l'Environnement, Siti Nurbaya Bakar, de créer un espace vert en plantant des semences. L'objectif est que la zone puisse produire de 5 à 7 millions d'arbres chaque année. S'examiner, c'était mon Indonésie de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Bila kau bukanlah cinta sejati, mungkin aku takkan pernah mengerti hati yang tulus, setia yang indah, dan semua yang terjadi antara kita. Namun ku yakin cinta ini takkan
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Serge Littak, c'était la deuxième chanson intitulée « Ce bentuk hati untuk kekasih » chantée par Chris Patti. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde. Bon, Serge Littak, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Bonsoir, chers auditeurs, bienvenue au magazine culturel, un programme quotidien sur le tourisme, les alimentations, les arts et la culture de diverses régions d'Indonésie. Dans l'édition d'aujourd'hui, nous vous présentons l'un des objets touristiques dans la province de Nusa Tenggara Est. Restez à l'écoute. La province de Nusa Tenggara Est a une nature exotique. Même la nature à Nusa Tenggara Est est reconnue dans le monde pour avoir un paysage naturel exotique et incroyable. La beauté de la nature dans la province jusqu'à maintenant est encore discutée par les touristes nationaux et étrangers de diverses communautés. L'une d'elles est la grotte de Rangko. La grotte de Rangko est située au village de Rangko, le district de Boleng, la région de l'ouest de Manggarai, à l'est de Nusa Tenggara. Bien que récemment cet objet touristique a été discuté dans les médias sociaux, cet objet touristique conserve encore naturellement. La grotte de Rangko est l'un des objets de tourisme qui se trouve sur un terrain qui peut se connecter à l'île de Komodo. Pour cette raison, cet endroit est approprié pour être destination après ou avant de visiter le parc national de Komodo. En visitant la grotte de Ranko, vous serez surpris par la beauté de la nature dans la grotte. En entrant dans la grotte, un paysage bleu de la piscine des sources d'eau claire vous accueillera. Les sources d'eau claire comme si vous invitent à sauter et à ajouter de l'eau dans sa piscine. Si vous voulez profiter du paysage et nager à la grotte de Ranko, nous vous suggérons de venir entre 13h et 15h heure locale. C'est parce que la grotte est assez sombre, donc seulement à ce moment-là, la lumière du soleil pénètre parmi les fissures de la grotte. Au village de Ranko, vous pouvez conduire en voiture ou en motocycle de la Bouane Badjou. En arrivant au village de Ranko, vous pouvez continuer votre voyage en louant un bateau à la population locale. Les frais qui doivent être payés sont d'environ 300 000 roupias. Vers la grotte de Ranko, de la passerelle doit être à travers un long pont qui se connecte à un quai. Le voyage prend 15 minutes en marchant. Après ça, vous entrez dans la zone de la grotte. À l'endroit, vous serez à travers la forêt et les falaises glissantes. À cause de cela, pour atteindre la grotte de Ranko, il faut faire attention. Chers auditeurs, c'était notre programme, le magazine culturel pour aujourd'hui, avec le titre « La grotte de Ranko, le trésor caché dans la Provence et de Nusa Tenggara Est ». Merci de votre attention. À demain. Yeah. Chers auditeurs, c'était la chanson d'Indaï Navertari intitulée Biarla Sendiri. Vous êtes toujours avec nous, Voice Indonesia, l'Indonésie pour le monde. Pour la rubrique suivante, voici Apprendre l'Indonésien.
Bonsoir à tous, on se retrouve dans l'émission Apprendre l'Indonésien, une rubrique qui vous introduit des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler en indonésien. Cette émission est une collaboration entre la Voix de l'Indonésie de Radio République Indonesia avec l'Agence du développement et du renouvellement du langage du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République indonésienne. Le sujet d'aujourd'hui est Waktu, ou en français, l'heure. Bonne écoute. Objectif, après avoir fait écouter cette édition, les apprenants peuvent utiliser les expressions d'heure. Personnage, Kevin, un homme, et Monsieur Imran, l'agent de l'université. Lieu, en voiture, en route vers l'hôtel. Situation, en route vers l'hôtel, Kevin et Monsieur Imran se bavardent. Kevin lui demande quelle heure est-il maintenant. L'atmosphère se sent bruyant dans la rue.
Sekarang pukul berapa, Pak?
Pukul 3 sore, Mas.
Oh, terima kasih.
Kalau di Darwin, waktunya lebih cepat atau lebih lambat?
Darwin lebih cepat 3 jam daripada Jakarta.
Chers auditeurs, après avoir fait écouter la conversation ci-dessus, je vais vous présenter les expressions et les vocabulaires reliant avec le sujet d'aujourd'hui, waktu, ou en français, l'heure. Je vais prononcer deux fois et vous pouvez me répéter. Lebih cepat. Lebih cepat. Plus avancé. Lebih lambat. Lebih lambat. Plus reculé. Pukul berapa? Pukul berapa? Quelle heure est-il? Sekarang pukul berapa, Pak? Sekarang pukul berapa, Pak? Quelle heure est-il maintenant, monsieur? Pukul 3 sore. Pukul 3 sore. 3 heures de l'après-midi. Kalau di Darwin, waktunya lebih cepat atau lebih lambat? Kalau di Darwin, waktunya lebih cepat atau lebih lambat? À Darwin, les heures sont plus avancées ou plus reculées? Darwin lebih cepat 3 jam dari Jakarta. Darwin lebih cepat 3 jam dari Jakarta. Les heures à Darwin sont plus avancées, 3 heures, que Jakarta. Chers amis, dans la conversation ci-dessus, vous avez écouté Kevin a posé des questions. Sekarang pukul berapa, Pak? Sekarang pukul berapa, Pak? Quelle heure est-il maintenant, monsieur? Pour demander l'heure, vous pouvez utiliser pukul berapa. Pukul berapa. Quelle heure est-il? Pour y répondre, vous pouvez utiliser le mot pukul, suivi par l'heure. Voici les exemples. Kevin, besok kita pergi pukul berapa? Besok kita pergi pukul berapa? Demain on va partir à quelle heure? Imran, pukul 8:15 ya. Pukul 8:15 ya. 8:15. En indonésien, pour mentionner l'heure, on utilise lebih, plus, et kurang, moins. Et on peut les utiliser avec souplesse. Par exemple, 8:55, 8:55. On peut dire pukul 8:55, pukul 8:55, 8:55. Ou bien pukul 9:05, pukul 9:05, 9:05. Chers auditeurs, avant de terminer apprendre l'indonésien d'aujourd'hui, pour plus de détails, écoutons l'exemple de la conversation encore une fois.
Sekarang pukul berapa, Pak?
Pukul 3 sore, Mas.
Oh, terima kasih.
Kalau di Darwin, waktunya lebih cepat atau lebih lambat?
Darwin lebih cepat 3 jam daripada Jakarta.
Chers amis, c'était la rubrique d'apprendre l'indonésien pour ce soir. Que cette rubrique soit utile pour vous qui voulez connaître la langue indonésienne. On se rencontre demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci beaucoup d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Memancarkan rasa keresahan yang terbenam, kerinduan yang tertahan, duka dalam yang tersembunyi jauh di lubuk hati. Kata-kata riuh mengalir bagai gerimis. Seperti angin tak pernah diam, selalu beranjak setiap saat, menebarkan jala asmara, menaburkan aroma luka, benih kebencian kau tanam, bakar ladang gersang. Entah sampai kapan berhenti menipu diri. We'll be right back.
Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous, Voice Indonesia de Nuzi pour le monde. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec les informations musicales.
Chers auditeurs, bonsoir. Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie au monde, avec moi Audrey. Ce soir, dans la rubrique magazine musical, je vais vous présenter une chanson traditionnelle de Maumere, Nusa Tenggara Est, intitulée Gemu Famiri. La chanson Gemu Famiri était autrefois très populaire en Indonésie. Cette chanson, rythmée, joyeuse et souvent jouée dans divers événements, est suivie d'un mouvement appelé gymnastique Maumere, Goyang Maumere. Son créateur est Franz Cornelis Dianbunda. Selon le chanteur, qui s'appelle familièrement Nyong Franco, cette chanson a été créée à l'origine pour accueillir les voyageurs qui viennent à Maumere, Nusa Tenggara Est. Bon, chers auditeurs, voici la chanson Gemu Famiri, chantée par Nyong Franco. Bonne écoute.
Roposai. Thank you.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en française pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous. Voice Indonesia, l'Indonésie pour le monde. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.